Condorcet, vie de Monsieur Turgot, fichier numéro 3. Je ne connais point la marine, disait-il. Cependant, il savait très bien la géographie comme marin, comme négociant, comme politique, comme naturaliste. Il avait étudié la théorie de la manœuvre. Il connaissait celle de la construction et de tous les arts employés à fabriquer un vaisseau, à le gréer et à l'armer. Les opérations astronomiques qui servent à diriger la route des navires, les instruments imaginés pour rendre ces opérations exactes, lui étaient connus et il était en état de juger entre toutes ces méthodes. En se comparant à d'autres hommes, il eût pu se croire très instruit. Mais ce n'était pas ainsi qu'il se jugeait lui-même. Il sentait qu'il lui manquait l'expérience de la navigation, l'habitude d'observer ces mêmes arts dont il n'avait pu saisir que les principes. Enfin, des connaissances mathématiques assez étendues pour entendre ou appliquer les savantes théories sur lesquelles une partie importante de la science navale doit être appuyée. Se comparer aux autres hommes pour s'enorgueillir de sa supériorité lui paraissait une faiblesse. Comparer ses connaissances à l'étendue immense de la nature lui semblait une philosophie fausse et propre à produire une inaction dangereuse. C'était entre ses connaissances personnelles et celles qu'on peut avoir dans le siècle où l'on se trouve qu'il croyait qu'un homme raisonnable devait établir cette comparaison pour bien juger de l'étendue de ses propres lumières. Et il n'est personne que cette comparaison ne doive encore rendre très modeste. Nous ne citerons que deux traits de ce ministère qui n'a duré qu'un mois. Il fit payer aux ouvriers de Brest une année et demie des arrérages qui leur étaient dus, et il proposa au roi d'accorder à l'illustre Euler une gratification de 1000 roubles parce que ce grand géomètre, après avoir donné un traité très profond sur la science navale, venait de réunir dans un ouvrage très court tout ce que la théorie a fait jusqu'ici de certain et d'applicable à la pratique. Le 24 août, il passa du ministère de la Marine à celui des Finances. Le changement que ses amis aperçurent en lui dans ce moment est peut-être un des traits qui peignent le mieux son âme. Il ne se dissimulait point combien le ministère de la Marine était plus assuré, plus à l'abri des orages. Accoutumé dès longtemps à réfléchir sur les objets de l'économie politique, il avait vu avec quelle facilité, en suivant de nouveaux principes, en prenant la justice et la liberté pour base d'une nouvelle administration, il pourrait produire une révolution dans le commerce, détruire cette avidité tyrannique qui désole l'Asie pour déshonorer et corrompre l'Europe, rendre nos colonies libres et puissantes, les attacher à la mère patrie, non par leur faiblesse et la nécessité, mais par l'intérêt et la reconnaissance. Assurer enfin leur existence, aujourd'hui si précaire, en faisant disparaître peu à peu, par des lois sages, cet esclavage des nègres, l'opprobre des nations modernes. Il savait que, sur tous ces objets, l'exemple donné par une grande nation entraînerait toutes les autres et mériterait aux ministres qui l'auraient donné des droits à la reconnaissance de l'humanité entière. Il savait avec quelle facilité encore il pourrait, par de nouveaux voyages entrepris suivant un système vaste et général, agrandir en peu de temps l'étendue des connaissances humaines, enrichir les sciences, perfectionner les arts et répandre dans toutes les parties du globe des semences de raison et de bonheur. Ceux qui le connaissaient ne pouvait douter que tous les détails des préparatifs de ses expéditions et de leurs résultats ne fussent pour lui une source inépuisable des plaisirs les plus vifs. Cependant, en quittant ce ministère, il paraissait délivré d'un poids qui l'accablait. Ni les dangers du poste qu'il acceptait, ni tout ce qu'il y prévoyait d'obstacles, d'opposition, de dégoût même, rien ne pouvait balancer à ses yeux l'idée qu'il quittait une place où il manquait de quelques-unes des connaissances nécessaires pour prendre celle à laquelle les travaux de toute sa vie l'avaient préparé. Il embrassait avidement l'espérance de faire plus de bien. Les obstacles, les difficultés excitaient alors son courage. Et peu de jours auparavant, la seule crainte d'avoir quelquefois à prononcer sur des objets qu'il ne connaissait pas assez semblait l'avoir abattu. La lettre qu'il écrivit au roi en recevant cette nouvelle marque de sa confiance est connue. Du 24 août 1774. Sire, en sortant du cabinet de votre majesté, encore plein du trouble où me jette l'immensité du fardeau qu'elle m'impose, agité par tous les sentiments qu'excite en moi la bonté touchante avec laquelle elle a daigné me rassurer, je me hâte de mettre à ses pieds ma respectueuse reconnaissance et le dévouement absolu de ma vie entière. Votre Majesté a bien voulu m'autoriser à remettre sous ses yeux l'engagement qu'elle a pris avec elle-même de me soutenir dans l'exécution des plans d'économie qui sont en tout temps et aujourd'hui plus que jamais d'une nécessité indispensable. J'aurais désiré pouvoir lui développer les réflexions que me suggère la position où se trouvent les finances. Le temps ne me le permet pas et je me réserve de m'expliquer plus au long quand j'aurais pu prendre des connaissances plus exactes. Je me borne en ce moment, sire, à vous rappeler ces trois paroles. Point de banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point d'emprunt. Point de banqueroute ni avoué ni masqué par des réductions forcées. Point d'augmentation d'imposition, la raison en est dans la situation des peuples et encore plus dans le cœur de votre majesté. Point d'emprunt, parce que tout emprunt, diminuant toujours le revenu libre, il nécessite au bout de quelque temps ou la banqueroute ou l'augmentation d'imposition. Il ne faut, en temps de paix, se permettre d'emprunter que pour liquider ses dettes anciennes ou pour rembourser d'autres emprunts faits à un denier plus onéreux. Pour remplir ces trois points, il n'y a qu'un moyen. C'est de réduire la dépense au-dessous de la recette et assez au-dessous pour pouvoir économiser chaque année une vingtaine de millions pour rembourser les dettes anciennes. Sans cela, le premier coup de canon forcerait l'État à la banqueroute. On demande sur quoi retrancher et chaque ordonnateur dans sa partie soutiendra que presque toutes les dépenses particulières sont indispensables. Ils peuvent dire de fort bonnes raisons, mais comme il n'y en a point pour faire ce qui est impossible, il faut que toutes ces raisons cèdent à la nécessité absolue de l'économie. Il est donc de nécessité absolue que Votre Majesté exige des ordonnateurs de toutes les parties qu'ils se concertent avec le ministre des Finances. Il est indispensable qu'ils puissent discuter avec eux, en présence de Votre Majesté, le degré de nécessité des dépenses proposées. Il est surtout nécessaire que lorsque vous aurez, sire, arrêté l'état des fonds de chaque département, vous défendiez à celui qui en est chargé d'ordonner aucune dépense nouvelle, sans avoir auparavant concerté avec la finance les moyens d'y pourvoir. Sans cela, chaque département se chargerait de dettes, qui seraient toujours des dettes de votre majesté, et l'ordonnateur de la finance ne pourrait répondre de la balance entre la dépense et la recette. Votre majesté sait qu'un des plus grands obstacles à l'économie est la multitude des demandes dont elle est continuellement assaillie, et que la trop grande facilité de ses prédécesseurs à les accueillir a malheureusement autorisée. Il faut, sire, vous armer contre votre bonté, de votre bonté même. Considérez d'où vous vient cet argent que vous pouvez distribuer à vos courtisans, et comparez la misère de ceux auxquels on est quelquefois obligé de l'arracher par les exécutions les plus rigoureuses, à la situation des personnes qui ont le plus de titres pour obtenir vos libéralités. Il y a des grâces auxquelles on a cru pouvoir se prêter plus aisément parce qu'elles ne portent pas immédiatement sur le trésor royal. De ce genre sont les intérêts, les croupes, les privilèges. Elles sont de toutes les plus dangereuses et les plus abusives. Tout profit sur les impositions, qui n'est pas absolument nécessaire pour la perception, est une dette consacrée au soulagement des contribuables et aux besoins de l'État. D'ailleurs, ces participations au profit des traitants sont une source de corruption pour la noblesse et de vexation pour le peuple, en donnant à tous les abus des protecteurs puissants et cachés. On peut espérer de parvenir, par l'amélioration de la culture, par la suppression des abus dans la perception et par une répartition plus équitable des impositions, à soulager sensiblement les peuples sans diminuer beaucoup les revenus publics. Mais si l'économie n'a précédé, aucune réforme n'est possible, parce qu'il n'en est aucune qui n'entraîne le risque de quelque interruption dans la marche des recouvrements, et parce qu'on doit s'attendre aux embarras multipliés que feront naître les manœuvres et les cris des hommes de toute espèce intéressés à soutenir les abus. Car il n'en est point dont quelqu'un ne vive. Tant que la finance sera continuellement aux expédients pour assurer les services, votre majesté sera toujours dans la dépendance des financiers, et ceux-ci seront toujours les maîtres de faire manquer, par des manœuvres de place, les opérations les plus importantes. Il n'y aura aucune amélioration possible, ni dans les impositions pour soulager les peuples, ni dans les arrangements relatifs au gouvernement intérieur et à la législation. L'autorité ne sera jamais tranquille, parce qu'elle ne sera jamais chérie, et que les mécontentements et les inquiétudes des peuples sont toujours le moyen dont les intrigants et les malintentionnés se servent pour exercer des troubles. C'est donc surtout de l'économie que dépend la prospérité de votre règne. Le calme dans l'intérieur, la considération au dehors, le bonheur de la nation et le vôtre. Je dois observer à votre majesté que j'entre en place dans une conjoncture fâcheuse par les inquiétudes répandues sur les subsistances, inquiétudes fortifiées par la fermentation des esprits depuis quelques années, par la variation dans les principes des administrateurs, par quelques opérations imprudentes, et surtout par une récolte qui paraît avoir été médiocre. Sur cette matière, comme sur beaucoup d'autres, je ne demande point à votre majesté d'adopter mes principes sans les avoir examinés et discutés, soit par elle-même, soit des personnes de confiance en sa présence. Mais, quand elle en aura reconnu la justice et la nécessité, je la supplie d'en maintenir l'exécution avec fermeté, sans se laisser effrayer par des clameurs qu'il est absolument impossible d'éviter en cette matière, quelque système qu'on suive, quelque conduite qu'on tienne. Voilà les points que votre majesté a bien voulu me permettre de lui rappeler. Elle n'oubliera pas qu'en recevant la place de contrôleur général, j'ai senti tout le prix de la confiance dont elle m'honore. J'ai senti qu'elle me confiait le bonheur de ses peuples, et s'il m'est permis de le dire, le soin de faire aimer sa personne et son autorité. Mais en même temps, j'ai senti tout le danger auquel je m'exposais. J'ai prévu que je serais seule à combattre contre les abus de tout genre, contre les efforts de ceux qui gagnent à ces abus, contre la foule des préjugés qui s'opposent à toute réforme et qui sont un moyen si puissant dans la main des gens intéressés à éterniser les désordres. J'aurai à lutter même contre la bonté naturelle, contre la générosité de votre majesté et des personnes qui lui sont les plus chères. Je serai craint, haï même de la plus grande partie de la cour, de tous ceux qui sollicitent des grâces, et on m'imputera tous les refus. On me peindra comme un homme dur, parce que j'aurai représenté à votre majesté qu'elle ne doit pas enrichir même ceux qu'elle aime aux dépens de la subsistance de son peuple. Ce peuple auquel je me serai sacrifié est si aisé à tromper que peut-être j'encourrai sa haine par les mesures que j'emploierai pour le défendre contre les vexations. Je serai calomnié et peut-être avec assez de vraisemblance pour m'ôter la confiance de votre majesté. Je ne regretterai point de perdre une place à laquelle je ne m'étais jamais attendu. Je suis prêt à la remettre à votre majesté dès que je ne pourrai plus espérer d'y être utile. Mais son estime, la réputation d'intégrité, la bienveillance publique qui ont déterminé son choix en ma faveur me sont plus chères que la vie, et je cours le risque de les perdre, même en ne méritant à mes yeux aucun reproche. Votre Majesté se souviendra que c'est sur la foi de ses promesses que je me charge d'un fardeau, peut-être au-dessus de mes forces, que c'est à elle personnellement, à l'homme honnête, à l'homme juste et bon, plutôt qu'au roi, que je m'abandonne. J'ose lui répéter ici ce qu'elle a bien voulu entendre et approuver. La bonté attendrissante avec laquelle elle a daigné presser mes mains dans les siennes, comme pour accepter mon dévouement, ne s'effacera jamais de mon souvenir. Elle soutiendra mon courage. Elle a pour jamais lié mon bonheur personnel avec les intérêts, la gloire et le bonheur de votre majesté. La législation des finances, du commerce et des manufactures, les détails de leur administration, la décision de toutes les questions particulières qui en dépendent, la surintendance des travaux et des établissements publics, l'inspection sur le régime et les revenus de toutes les communautés, depuis les états des grandes provinces jusqu'au corps municipal du plus petit village, le soin de maintenir dans la levée des subsides un ordre qui en rende la perception certaine sans la rendre onéreuse, d'assurer les fonds nécessaires aux dépenses publiques, de discuter la nécessité, ou du moins l'utilité de ces dépenses, d'y maintenir une règle sévère qui empêche les déprédations, une économie éclairée qui en diminue le poids, de soutenir enfin le crédit national et de veiller à l'exécution fidèle des engagements contractés au nom du souverain. Telles sont en France les fonctions et les devoirs d'un contrôleur général. Mais la législation des finances n'avait depuis longtemps qu'un seul principe, le désir d'augmenter les revenus du roi en évitant les réclamations dangereuses pour le ministre. Aussi, par une suite de ce principe, cette législation ne pesait que sur le peuple, et principalement sur le peuple des campagnes, qui, toujours dispersé, ne peut ni se faire entendre, ni inspirer de crainte. Le commerce avait été constamment sacrifié à des vues fiscales, et lorsque des circonstances très rares avaient permis que quelques lois en eussent l'encouragement pour motif et non pour prétexte, l'intérêt souvent malentendu de quelques villes, les opinions de quelques négociants, ou ignorants ou de mauvaise foi, l'exemple des nations étrangères, les préjugés de leur politique, avaient presque toujours dicté ces lois. On avait écouté quelquefois les demandes de négociants riches et presque jamais les intérêts du commerce. L'industrie n'était pas moins accablée sous le poids des règlements et sous celui des lois fiscales. Les détails de l'administration, les jugements sur les affaires particulières, étaient dirigés par les mêmes principes. Mais on s'y livrait à ce système oppressif avec moins de contraintes encore, parce que ces opérations plus partielles, plus secrètes, échappent plus sûrement à la censure publique. Les grands chemins, faits par corvée, épuisaient les campagnes, et régulièrement, deux fois par année, y ramenaient la servitude, la misère et le désespoir. La navigation intérieure languissait au milieu d'une foule de projets enfantés par l'orgueil ou par l'avidité. Des dépenses du luxe, consacrées au plaisir ou à la vanité des citoyens riches, avaient absorbé le revenu de la plupart des villes, déjà surchargées de petites impositions locales, administrées par des officiers qu'elles n'avaient pas choisis, ou forcées de racheter le droit de les élire. Le produit des impôts, égaré dans les canaux multipliés qui le conduisaient au trésor royal, et presque entièrement absorbé par les anticipations, ne suffisait plus même aux besoins réels. Les engagements avaient été violés, les paiements annuels retardés, et chaque année, de petits moyens toujours onéreux, souvent oppressifs, assuraient la dépense publique toujours prête à manquer. La confiance était anéantie. Des emprunts forcés successivement exigés de toutes les compagnies, de tous les corps, et l'habitude d'acheter à prix d'or la signature de quelques banquiers accrédités avaient accoutumé les capitalistes à vouloir toujours qu'il y eut un crédit particulier entre eux et le gouvernement. Enfin, il n'y avait d'autre principe pour régler la dépense que la nécessité où était le ministre d'acheter par sa facilité le silence ou la protection de tout ce qui avait de l'autorité ou du crédit. C'est du sein de ce chaos qu'il fallait créer une nouvelle administration, fondée sur la justice, dirigée vers le bien du peuple. Un homme vertueux a osé l'entreprendre, convaincu que, pour détruire le mal en lui-même, il suffirait de suivre quelques principes bien simples qu'il s'étonnait de ne pas trouver plus répandus, et se sentant au fond du cœur la force de braver tous les obstacles étrangers, quoiqu'il ne s'en dissimulât aucun. Le fardeau des impôts accablait le peuple, et les circonstances ne permettaient pas d'en alléger le poids. La nécessité de payer les arrérages de la dette exigible, seul moyen de rétablir le crédit, obligeait de conserver le même revenu. Les fruits de l'économie étaient tardifs et incertains. Le changement dans la forme des impositions exigeait du temps, eût essuyé des obstacles. Et pour être exécuté d'après les principes de justice et sans faire un mal momentané à une partie des citoyens, pouvait exiger des sacrifices. Mais s'il était impossible de diminuer la quantité des impôts, on pouvait augmenter les facultés du peuple, et c'était lui procurer un soulagement réel. On pouvait lui rendre la jouissance de quelques-uns de ses droits naturels. On pouvait lui épargner du moins une partie des vexations sous lesquelles il avait longtemps gémi. Et ce fut le premier objet des soins de M. Turgot. Une première loi établit la liberté du commerce des grains dans l'intérieur du royaume. Ranimer la culture par l'encouragement qui naît de la certitude de disposer à son gré de sa denrée. Augmenter à la fois la quantité des subsistances et le produit net des terres. Préparer au peuple les ressources des approvisionnements du commerce contre les mauvaises années et contre les disettes locales. Lui assurer des salaires toujours suffisants en rendant moins grandes et moins fréquentes les variations dans le prix du blé. Mettre enfin, par l'établissement d'un commerce constant et sûr, les propriétaires, les cultivateurs, le gouvernement, le peuple, à l'abri des pertes réelles de denrées, des vexations, des lois oppressives, des inquiétudes, des troubles intérieurs. Fruit cruel et infaillible de toute espèce de régime prohibitif. Tel était le bien que cette loi devait produire. Monsieur Turgot sentait combien la liberté absolue de l'exportation ajouterait à la sûreté de la subsistance en donnant plus d'activité au commerce, plus d'étendue aux approvisionnements, en appelant les secours de l'étranger dans les années malheureuses. Mais il savait en même temps que cette liberté causerait des inquiétudes, qui, toute chimérique qu'elle serait, produirait un mal réel, que le commerce avec l'étranger, toujours très faible en comparaison de celui de l'intérieur, resterait languissant tant que celui-ci ne serait pas établi d'une manière constante. Qu'enfin, plusieurs années de mauvaises récoltes rendaient, à l'époque où la loi était promulguée, les avantages de la liberté de l'exportation presque aussi imaginaires que ses prétendus dangers, si terribles aux yeux de l'ignorance. En rendant au commerce des grains et à celui des farines sa liberté naturelle, on était loin d'avoir tout fait. Des entraves locales s'opposaient aux effets que la liberté eût pu produire. Le privilège exclusif des boulangers, la taxe du pain, la banalité des moulins, les droits de minage et de halage étaient autant de chaînes qu'il fallait briser. Toutes l'ont été pendant le ministère de M. Turgot. Et, si les banalités seules subsistaient encore, c'est qu'il n'avait voulu ni détruire sans aucun dédommagement un droit fondé sur une possession longtemps reconnue, quelquefois même sur une convention libre, ni faire racheter au peuple, à un trop haut prix, ce même droit qui n'aurait aucune valeur si la fraude, appuyée par la force, n'avait su en créer une. Mais la liberté du commerce des farines, en arrêtant ses profits illégitimes, eût éclairé en peu d'années sur la vraie valeur de ce droit et sur l'étendue du dédommagement qui devait en payer le sacrifice. Le privilège des boulangers et la taxe du pain, qui en est la suite, disparaissaient avec les jurandes. Les droits sur les marchés, levés par des communautés, soit qu'ils appartinssent à des particuliers, avaient été suspendus et devaient être supprimés en dédommageant les propriétaires. M. Turgot respectait le droit de propriété et le respectait d'autant mieux qu'il savait avec plus d'exactitude quelle en était la véritable étendue. Mais les droits de marché ne sont pas une propriété, c'est un impôt local établi dans ces temps d'anarchie où les communautés, les seigneurs, s'étaient partagés une partie de ce droit d'imposer les subsides que des assemblées tumultueuses et irrégulières disputaient alors à un roi sans pouvoir. Des actes légitimes où une longue possession avait consacré ses droits. Achetés comme une propriété réelle, passés de famille en famille, la plupart avaient effacé la tache de leur première origine. Mais le droit que la nation, ou le chef, en qui réside son pouvoir, a de régler tout impôt de la manière la plus avantageuse au peuple, n'avait pu souffrir l'atteinte. Il est à la fois inaliénable et imprescriptible de sa nature, et la souveraineté a dès lors conservé celui de détruire tous ses impôts en donnant à ceux qui en jouissent un dédommagement égal à la perte qu'ils essuient. Aux yeux de quiconque a su se faire des idées justes, supprimer de pareils droits n'est pas attaquer la propriété, mais les établir et restreindre ainsi la liberté du commerce par un règlement ou par un privilège, c'est y porter une atteinte réelle. D'anciens privilèges s'opposaient également à la circulation des vins d'une partie de nos provinces. Ils furent détruits par un édit, et cette production, la plus importante du royaume après celle de nos grains, eut toute la liberté dont l'administration vicieuse de l'impôt lui permettait de jouir. La liberté des eaux-de-vie devait être une suite de la même opération. Déjà, quelques gênes locales avaient été détruites. Les droits qui s'opposaient à l'exportation de cette liqueur avaient été abolis. La fabrication des eaux-de-vie de Marc eût été permise. Les eaux-de-vie de grain, défendues en France, celles de cidre et de poirée, qui ne peuvent sortir des provinces où on les distille, auraient obtenu une circulation libre. L'avantage direct de toutes ces lois était pour les propriétaires, mais celui de l'abolition des corvées tombait directement sur le peuple. M. Turgot les remplaça par une imposition territoriale qui s'étendait à toutes les propriétés, quels qu'en fussent les possesseurs. Les propriétaires éclairés sentaient combien ce changement leur était avantageux et que l'augmentation du prix des baux ferait plus que compenser ce léger impôt. Ils ne pouvaient se dissimuler que la corvée des fermiers et celle des ouvriers des campagnes entraient nécessairement dans l'estimation des frais de culture, diminuaient le produit net et qu'ainsi cet impôt indirect était réellement payé par eux-mêmes. De toutes les méthodes de payer la dépense des chemins publics, celle que M. Turgot voulait établir est la plus juste, puisque la contribution est payée par ceux à qui les chemins sont utiles et à proportion de l'utilité qu'ils en retirent, la moins onéreuse, puisqu'elle n'entraîne aucune vexation et que les chemins coûtent moins, sont mieux faits et exigent moins de réparation, la plus utile, parce qu'au lieu d'être, comme la corvée, une véritable servitude ou une source de misère pour le peuple, elle lui offre des salaires qu'un gouvernement sage peut distribuer et proportionner à ses besoins. Cependant, M. Turgot fut obligé, après une longue résistance, d'exempter de l'impôt les biens ecclésiastiques, d'ajouter cette immunité à tant d'autres, et la surcharge qui en résultait pour le peuple aux contributions que le clergé lève en son nom sur toutes les classes de citoyens. Mais le bien qui résultait de la suppression des corvées était encore immense. Il le serait quand bien même la contribution serait levée en entier sur les taillables, parce qu'elle coûterait toujours moins au peuple que la corvée en nature, et qu'elle n'entraînerait ni les mêmes vexations, ni le même esclavage, ni les mêmes désastres. La même loi ordonnait que les terrains employés en chemin seraient estimés et que le prix en serait payé aux propriétaires sur les fonds de la nouvelle contribution. Jusqu'alors, d'après les principes d'une fiscalité barbare, on s'était dispensé de ce devoir qu'imposait la justice la plus simple et que l'humanité réclamait. La seule objection spécieuse qu'on opposa au plan de M. Turgot était la crainte qu'on employât un jour cette contribution à d'autres dépenses. Comme si, dans le cas où le gouvernement aurait besoin d'un nouvel impôt, la corvée ne serait pas un des plus odieux, un de ceux qu'il craindrait le plus d'établir. Comme si, parmi les dépenses nécessaires, celle de l'entretien ou de la construction des chemins n'était pas une des dernières qu'il songerait à sacrifier. Longtemps, on a vu le gouvernement, soit pour ménager les préjugés ou les intérêts de quelques classes de particuliers, soit pour éviter l'éclat de l'établissement d'un nouvel impôt, cacher de véritables levées de deniers sous un voile utile à la stabilité des ministres et funeste à la nation. Mais l'ignorance, à l'abri de laquelle on se permettait ces moyens, ne subsiste plus. L'abus qu'on en a fait a éclairé même les moins instruits, et la puissance royale, plus affermie, n'a plus besoin de tromper. Par ces différentes lois, la servitude du peuple des campagnes était détruite, mais celui des villes avait aussi ses chaînes qu'il fallait briser. Pour achever de faire jouir toutes les classes de citoyens utiles de l'aurore d'un nouvel ordre fondé sur la bienfaisance et la justice. tous ceux qui, dans les villes, n'avaient pu remplir certaines formalités, souvent bizarres et toujours coûteuses, n'ayant pas le titre de maître dans les communautés de marchands ou d'ouvriers, n'avaient point la liberté de disposer à leur gré de leur intelligence ou de leurs bras. Les maîtres formaient une petite république dont les chefs, sous prétexte de police, avaient porté à un degré qu'il eût été difficile de prévoir l'art de resserrer les chaînes des malheureux ouvriers, de surcharger les communautés de dépenses inutiles et de rendre insupportable même l'état de maître à ceux qui n'avaient que de l'industrie et de l'amour du travail. Cet odieux et ridicule esclavage fut aboli. L'habitant des villes acquit enfin le droit de disposer de ses bras et de son travail. Droit dont alors il ne jouissait encore chez aucune nation, même chez celles qui osent le plus se vanter de leur liberté. Ce droit, l'un des premiers que nous ait donné la nature et qu'on peut regarder comme une suite nécessaire de celui d'exister et de vivre, semblait effacé de la mémoire et du cœur des hommes. Et c'est un de ces titres de l'humanité perdu pendant la nuit des temps barbares et que notre siècle a retrouvé. Les avantages de la suppression des jurandes ne se bornaient pas à ce grand acte de justice. Il en résultait pour le peuple, pour tous les citoyens, la diminution des prix du pain, de la viande, de toutes les denrées, de toutes les productions des arts. D'ailleurs, l'usage de taxer les denrées avait disparu avec le privilège exclusif de les vendre, seul prétexte spécieux de cet usage. On remboursait une foule de petites charges dont le nom même était ridicule, mais qui, jouissant de privilèges onéreux au peuple, servaient de prétexte à la levée de droits très compliqués, et par cette réunion d'abus, faisaient payer à un intérêt exorbitant le faible secours que leur création avait procuré. On délivrait les manufactures du joug tyrannique que Colbert leur avait imposé, lorsqu'il avait fixé par des lois la largeur des étoffes, la méthode de former les tissus, les procédés de la teinture, et condamné à des confiscations, à des amendes et même à des peines afflictives ceux qui s'écartaient de ces lois. Elles n'avaient pu être dictées à ce ministre que par des fabricants ignorants qui avaient pris leurs connaissances et leurs pratiques pour les bornes des progrès des arts et avaient cru pouvoir assujettir les goûts et les besoins des hommes de tous les siècles aux goûts et aux besoins de leur temps. Quelques-uns même avaient l'inconvénient d'être physiquement inexécutables et n'en décernaient pas moins des peines contre les malheureux qui ne les auraient pas exécutées. Enfin, par ce même édit, l'industrie, renfermée presque uniquement dans les villes ou obligée de payer un tribut à leurs habitants, pouvaient s'établir librement dans les campagnes et chercher les lieux où le bas prix des subsistances et la facilité de se procurer les denrées qu'elle emploie ou qu'elle consomme lui avaient marqué sa véritable place. Ces lois générales avaient été accompagnées de quelques lois particulières dirigées vers le même but. Une loi dont le prétexte avait été l'utilité publique obligeait les bouchers de Paris d'emprunter à une caisse particulière l'argent même dont ils n'avaient pas besoin, et l'intérêt qu'exigeait cette caisse était très onéreux. Une autre loi, ayant ce même prétexte dont on a tant abusé, et pour motif l'avantage de quelques particuliers, empêchait les bouchers de vendre librement leurs suifs. Ils furent débarrassés de ces entraves qui les forçaient à vendre plus cher, en même temps que le peuple était délivré de toutes les petites exactions dont le régime des boucheries le rendait la victime, et qu'il obtenait, par la liberté et par la concurrence, l'avantage d'avoir de la viande médiocre mais saine pour un prix proportionné à ses facultés. Une autre loi donnait à l'Hôtel-Dieu de Paris le privilège exclusif de vendre de la viande en carême, c'est-à-dire pendant la huitième partie de l'année. Le peuple, hors d'état de se nourrir de poisson, parce que les droits en augmentaient le prix, ne pouvait avoir de viande parce qu'elle devenait trop chère et était condamné à une nourriture malsaine ou dégoûtante. M. Turgot détruisit le privilège de l'Hôtel-Dieu qui fut remplacé par un droit plus qu'équivalent. Il épargna au peuple les frais de cette régie mal administrée, tandis que la suppression des droits sur le poisson salé et de la moitié des droits sur la marée fraîche encourageait l'art de la pêche et amenait dans la capitale l'abondance et le bon marché. M. Turgot voyait dans cette opération un autre avantage, celui de détruire une des usurpations de la puissance ecclésiastique. L'abstinence de la viande pendant le carême, la cessation du travail les jours de fête, sont des lois qui ne doivent obliger que la conscience. On ne peut, sans injustice, donner à ces lois l'appui de la force publique. Aucun pouvoir n'en a le droit légitime, parce qu'aucun n'a celui de régler les opinions ou de défendre des actions qui, par elles-mêmes, ne sont pas contraires à la justice. Les corvées militaires, qui pesant uniquement sur les villages exposés au passage des troupes ou des munitions, étaient à leur égard une véritable injustice, qui, comme les corvées des grands chemins, avaient l'inconvénient d'employer les bras ou les facultés des hommes contre leur gré, d'ajouter l'humiliation et la servitude au fardeau de l'impôt, ces corvées furent aussi remplacées par une contribution générale. L'impôt de la taille, élevé directement sur des hommes qui, n'ayant que leur salaire pour vivre, sans propriété, sans autres meubles que les ustensiles nécessaires, ne peuvent pas même être contraints à payer par la violence. Un collecteur, forcé de se charger de la levée de l'impôt, avait le droit d'en faire remplir le montant par les quatre plus imposés à la taille. Quoiqu'ils eussent payé leurs taxes, ils étaient contraints, par la vente de leurs effets, par la prison même, à réparer la négligence du collecteur ou la pauvreté de leurs concitoyens. Il est difficile d'imaginer un régime plus oppressif. Un des premiers soins de M. Turgot fut de l'abolir. À l'abri de cette nouvelle loi, le citoyen qui avait payé sa taille était du moins tranquille. La somme qu'auparavant on l'obligeait d'avancer et qu'il fallait répartir ensuite sur la communauté est immédiatement imposée sur elle, mais avec un intérêt qui dédommage le collecteur de l'avance qu'il est alors obligé de faire. Les propriétaires des bois d'un canton de la Franche-Comté étaient assujettis à une servitude singulière. Ils étaient obligés de fournir à bas prix aux salpêtriers le bois dont ils avaient besoin, et il leur était défendu d'en vendre à d'autres qu'aux fermiers généraux pour l'exploitation des salines. Cette contradiction avait subsisté longtemps, et plusieurs particuliers ou communautés avaient été poursuivis pour avoir violé l'une ou l'autre de ces lois qu'on ne pouvait exécuter à la fois. La première fut détruite par une opération sur le bail des poudres, dont nous parlerons bientôt, et M. Turgot détruisit le privilège des fermiers généraux en transportant leurs ateliers au milieu d'une forêt appartenant au roi, où un nouveau canal conduit l'eau des fontaines salées. Me sera-t-il permis de rapporter à cette occasion une anecdote propre à consoler ceux des gens en place qui ont le malheur d'être plus sensibles à l'opinion qu'au témoignage de leur conscience. Ce canal enlevait quelques arpents de terre à un gentilhomme de la province. On lui offrit une indemnité à dire d'expert. Il la refusa et vint se plaindre à la cour de l'atteinte portée à sa propriété. Les courtisans, à qui M. Turgot ne prodiguait pas la substance du peuple, répétèrent ses cris avec complaisance. Eux, qui avaient étouffé ceux du pauvre lorsque de vastes grands chemins qui conduisaient à leurs terres avaient absorbé ces petites propriétés dont on se croyait alors dispensé de payer le prix. Et pendant qu'il l'accusait, le ministre, ami de la nation, avait fixé par une loi la largeur des grands chemins qu'une fausse idée de luxe et la vanité puérile des constructeurs avaient agrandi aux dépens de la nourriture du peuple et de la propriété des citoyens. Le petit pays de Gex, séparé du reste de la France par le mont Jura, avait été assujetti au droit de la ferme générale. Sa position, entre une frontière ouverte et des montagnes, rendait l'exercice de ses droits impossible sans une multiplicité d'employés qui ruinait ce malheureux canton, déjà dépeuplé par les suites de l'édit de Nantes. Souvent, M. de Voltaire, dont la vieillesse active et bienfaisante honorait et consolait cette terre infortunée, avait demandé au ministère la liberté de racheter l'affranchissement de ses droits par un autre impôt. Il ne put se faire entendre qu'au cœur de M. Turgot, et le pays de Gex obtint alors enfin cette liberté tant désirée. On voit comment, dans toutes ces lois, M. Turgot avait su attaquer tous les genres d'oppression et s'occuper du bonheur de toutes les classes du citoyen, propriétaires, paysans, peuple des villes, sans jamais sacrifier l'une à l'autre, toujours équitable envers tous, guidé toujours par cet esprit de justice universelle, principe de toute administration salutaire et éclairée. Combien devait-il paraître doux à une âme telle que la sienne d'avoir fait tant de bien sans aucun autre moyen que de rendre aux hommes une partie de ses droits naturels qu'aucune constitution ne peut légitimement leur enlever, que, dans aucune, le souverain n'a intérêt de violer, et dont, cependant, grâce aux préjugés antiques et aux sophismes nouveaux des prétendus amis du peuple, les citoyens d'aucun pays ne jouissaient à cette époque avec autant d'étendue que les Français. Car alors, l'Amérique n'avait pas encore recouvré sa liberté. On demandera, peut-être, ce qui reste de ces lois. Il en subsiste trop peu, sans doute, mais du moins, on peut en contempler quelques restes, semblables aux ruines de ces palais antiques dont le temps et des mains ennemies n'ont pu consommer la destruction, et dont les débris offrent encore un asile à quelques malheureux. Un artiste les admire en silence. Il sent ses idées s'agrandir, et ne peut s'empêcher d'éprouver un désir involontaire d'être appelé quelque jour à ériger un monument qui les égale. Dans ce même temps, d'autres objets, liés d'une manière moins immédiate au bonheur public, n'étaient pas négligés. On augmenta le nombre des ports qui avaient la liberté de commercer directement avec nos îles. Liberté avantageuse pour la métropole comme pour les colonies. On permit la vente de l'huile de pavot. Cette huile, qui n'a aucune qualité nuisible, était vendue sous le nom d'huile d'olive. Et M. Turgot n'ignorait pas que les fraudes de ce genre se font toujours aux dépens des propriétaires de la denrée et du consommateur. On rendit la liberté aux verreries de Normandie qui, forcés de fournir à bas prix une certaine quantité de verre à Paris et à Rouen, n'auraient trouvé aucun avantage à perfectionner leur fabrication et étaient restés dans cet état de médiocrité auquel ces lois oppressives condamnent les manufactures qui ont le malheur d'y être assujetties. Quelques années auparavant, on avait encouragé les défrichements en exemptant de dîmes pour un temps les terres défrichées. Cette loi était nécessaire. La dîme, qui se lève non sur le produit net des terres, mais sur leur produit physique, non sur la part du propriétaire, mais sur les sueurs et les travaux du laboureur, la dîme eût presque enlevé le profit entier des défrichements et cet impôt devenait un obstacle au progrès de l'agriculture. Mais cette loi bienfaisante était éludée. Un procès que le décimateur pouvait intenter sous prétexte que la terre avait été autrefois cultivée, que des bestiaux avaient pu y paître, était un mal plus grand que la dîme. Et il fallut une nouvelle loi pour mettre le peuple à l'abri de l'avidité sacerdotale. On fixa le terme où ils pourraient faire valoir leurs prétentions. Ce terme ne fut que de 6 mois après la déclaration faite par le cultivateur, en sorte que les décimateurs ne pouvaient plus espérer de profiter des travaux d'autrui. Et si le respect pour l'usage établi forçait de leur laisser encore ce moyen de nuire, du moins, on leur en avait enlevé tout intérêt. Le recueil des lois publiées sous ce ministère offre presque chaque jour quelqu'une de ces opérations bienfaisantes. Et l'on n'y voit qu'aucun des petits maux auxquels le peuple était exposé n'avait échappé à la vigilance du ministre, qui ne manquait d'y apporter un remède que lorsqu'il n'en avait pas le pouvoir, ou que ces maux particuliers, liés à un abus plus funeste, ne pouvaient et ne devaient être détruits que du même coup. Monsieur Turgot regardait un plan général de navigation intérieure, un système de travaux pour rendre navigables les rivières qui en sont susceptibles et pour perfectionner la navigation des grands fleuves comme le seul moyen de donner au commerce de l'intérieur cette activité nécessaire au progrès de la culture et de l'industrie et de mettre, par une circulation plus étendue, les subsistances du peuple et le succès des manufactures plus à l'abri des accidents. Les circonstances ne lui permettaient que des entreprises peu considérables. Il y affecta une contribution de 800 000 livres et s'occupa de former ce plan général qui peut seul donner aux travaux de ce genre une utilité étendue et durable. Il savait combien il est facile de former des projets, d'annoncer des moyens nouveaux. Il n'y a pas de jour qu'on ne propose à un ministre un projet digne des anciens Romains et dont l'exécution immortaliserait son ministère. Il n'y a pas de jour où on ne lui prouve que le bien de l'État exige qu'on force la nature pour faire passer un canal sous les murs d'une capitale ou au milieu des possessions d'un grand seigneur. Mais est-il question d'examiner ces projets, de les juger d'après des principes certains? On ne trouve que des doutes chez les savants, et chez les gens de l'art, que de la confiance. Monsieur Turgot crut, en conséquence, devoir attacher à son administration 3 géomètres de l'Académie des sciences, qu'il chargea de l'examen de ses projets, et surtout des recherches nécessaires pour se mettre en état de prononcer. Des expériences sur les fluides, faites par M. l'abbé Bossu, ont été le seul fruit de cet établissement, qui, formé par l'amitié et par la confiance personnelle, fut détruit avec le ministère de M. Turgot.